Et nous passons à la face B de la troisième cassette. Et je voudrais terminer ce préambule à la troisième partie en disant qu'il y a deux grandes erreurs à éviter à tout prix lorsque l'on parle de renouveau en Église. Deux erreurs commises malheureusement d'innombrables fois au cours des 20 siècles. L'une, c'est l'erreur de partir et d'aller fonder une autre église ou une église parallèle. Et l'autre erreur, c'est de commencer le combat, la guerre, à l'intérieur de l'église et de s'en prendre aux autres. Non seulement ça ne mène nulle part, mais habituellement ça aggrave souvent la situation. La seule véritable relance possible en église, c'est celle qui se vit à l'intérieur de l'Église, au cœur même de l'Église, et se démontre d'abord par ceux et celles qui la proclament et la réclament. C'est une relance qui n'est pas anti-ceci ou anti-celui-ci ou celui-là, c'est une relance qui est un exercice de partage. Dans la vérité, la charité et la liberté, donc dans le respect des autres, de leur diversité et conviction, de ce que l'on croit soi-même être essentiel à la vie chrétienne des individus et des collectivités. Donc ce type de relance spirituelle, et c'est ce type que nous recommandons, n'a rien à voir avec l'attitude des personnes écrasées, blessées ou frustrées par ou dans l'Église, ni avec celle des gens agressifs, révoltés ou mitrailleurs. Rien à voir non plus avec le style de délateur, dénonciateur ou chercheur d'hérésie ou de schisme ou injuste diffamateur. C'est tout au contraire une attitude qui se veut adulte, chrétienne, positive, sereine, qui va son chemin tout droit et en vertu de tous ses droits. Attitude persévérante, mais sans prosélytisme, sans pression, sans étiquetage des autres, convaincue que le partage fraternel de son vécu et des fruits qui en découlent de toute évidence, avec la grâce du Seigneur, finira, tôt ou tard, par ouvrir les cœurs et les esprits à l'accueil du Seigneur, et que lui, à son tour, accomplira en nos frères et sœurs son œuvre. La relance spirituelle qui s'amorce réussira car c'est la route que l'Esprit du Seigneur nous propose depuis le début et nous comptons bien y tenir moyennant ses saintes grâces. Vous ne me ou nous verrez pas argumenter, discuter, plaider, tempêter, charrier ou nous attaquer à qui que ce soit personnellement ou à quoi que ce soit en fait d'organisme, de structure ou de cadre. Nous nous contenterons de proclamer et de réclamer une Église plus sainte afin qu'elle accomplisse plus et mieux son devoir dans le monde qui en a tant besoin. Comment cette Église, devenant de plus en plus sainte, va-t-elle s'y prendre pour s'impliquer dans le salut du monde? Ce sera la suite à venir. Car le Seigneur, lui, il connaît mieux que nous les meilleurs procédés et les moyens sûrs, et il va vous et nous les inspirer au fur et à mesure. Branchons-nous donc d'abord sur lui, et le reste nous viendra par surcroît. Comme le schéma nous l'indique, il y a quatre parties, quatre sections à l'intérieur de cette troisième partie. On parle d'abord de l'origine de cette solution, ensuite les éléments essentiels, les confirmations et les bienfaits. Voyons d'abord dans la section A l'origine de tout cela. C'est la fameuse question posée directement et exclusivement au Seigneur et sa remarquable réponse inspiré au cours des premières années de nos fondations. La fameuse question. Depuis environ ma 10e année d'ordination sacerdotale, au moins, et j'en avais 27 en 1974, quand j'ai quitté mon poste de secrétaire général de l'Épiscopat, j'étais toujours hanté par une même question. Comment se fait-il qu'en Église, on déploie tant d'efforts et par ailleurs, on obtient, somme toute, si peu de résultats? Mes nombreuses années de ministère actif dans des fonctions, disons, stratégiques en Église, m'avaient de plus en plus confirmé sur le fait que notre style de pensée, de vie et de fonctionnement qui prévaut à l'heure actuelle, même après le Concile et les nombreuses réformes opérées, demeurait un style lacunaire, c'est-à-dire comprenant des lacunes majeures, ou, si l'on préfère, des omissions, des déficiences sérieuses. Et comme tout le monde, j'ai cherché pendant des années éperdument, tant avec les autres que de mon côté, à repérer ces lacunes et leurs causes, pour mieux les corriger. C'est inouï tous les essais et les efforts qui ont été tentés par tous. Correctifs variés, innombrables, aux bons effets momentanés, mais toujours en définitive, sans grand résultat durable et profond. Or, un bon matin d'avril 1974, au cours de mon heure d'oraison, alors que je relançais pour la ième fois ma même question au Seigneur, j'ai comme senti, au plus profond de mon être, une voix intérieure s'exprimer très clairement ainsi. Et si on me consultait, moi, j'aurais peut-être quelque chose à dire, à suggérer. C'était, mes amis, je l'avoue, ma toute première expérience du genre. Elle a été bouleversante pour moi et je me rappelle fort bien qu'à ce moment-là, je me suis retourné dans la chapelle pour voir si quelqu'un m'avait adressé la parole et j'étais seul. J'ai osé, un peu comme Gédéon, demander un deuxième signe, qu'on me répète que la voix intérieure s'exprime à nouveau et j'ai entendu exactement, très clairement, pour une deuxième fois, « Et si on me consultait, moi, j'aurais peut-être quelque chose à suggérer. » Et à ce moment-là, je n'ai eu aucune hésitation. Je savais que c'était le Seigneur qui s'exprimait. Je suis tombé à genoux et j'ai promis au Seigneur de me rendre à 100% disponible et docile. Et la suite des événements, je vous la donne rapidement. Après un long temps, plusieurs mois de prière, de jeûne, de consultation, de discernement spirituel, de confirmation et de signes demandés au Seigneur, en accord avec Monseigneur Grégoire, mon archevêque d'alors, après une rencontre avec le président de l'Épiscopat du temps, Monseigneur Fortier, je donne officiellement ma démission en tant que secrétaire général de l'Épiscopat du Canada. On me prie cependant de demeurer en poste durant un autre 9 mois supplémentaires pour mieux préparer la relève et la transition, ce que j'accepte. Avant mon départ, fixé au 30 avril de l'année suivante, 1975, je suis invité à présenter devant toute l'Assemblée des archevêques et évêques du Canada, réunis en assemblée plénière à Ottawa, au milieu d'avril 1975, le rôle, la nature et l'esprit caractéristique de nos fondations, Pax Vobis et que ton règne vienne, et à répondre, séance tenante, aux diverses questions des évêques. Vous l'imaginez bien, mes chers amis, le fait de me lancer en cette grande aventure, à la fois inédite et prophétique en Église, donc aux allures post-conciliaires encore non définies, de m'y lancer au vu et au su de tout l'Épiscopat a été pour moi une source de joie et de paix et une certaine confirmation inespérée au point de départ. J'ai, soit dit en passant, reçu de la plupart des membres de l'Épiscopat à l'occasion de cette option des lettres chaleureuses, des paroles et des gestes d'encouragement et non équivoques pour le succès des fondations. J'ai mis par écrit la question que je voulais poser directement et exclusivement au Seigneur. D'abord pour mieux la lui présenter, ne pas l'oublier et lui être fidèle. Et je vous lis cette question. Je cite, « Comment se fait-il que notre Église, même au lendemain de Vatican II, avec toutes ses ressources spirituelles, humaines et matérielles, son énorme déploiement apostolique, sa multitude de communautés, d'œuvres et d'institutions, ses équipes de recherche et de pastorale pourtant compétentes, son membership aussi considérable et l'extraordinaire dévouement de tant de ses dirigeants et fidèles, comment se fait-il que l'Église n'a pas plus d'impact, de leadership, bref, de rentabilité spirituelle dans notre monde d'aujourd'hui? Tant d'efforts et toute proportion gardée, beaucoup moins de résultats. Qu'est-ce donc au juste qui nous et lui manque à ton Église? » Vous en conviendrez avec moi, c'était jouer le tout pour le tout. C'était faire un grand plongeon dans la foi. Car le Seigneur allait-il répondre à cette question? Et si oui, quand? Comment? Quoi au juste? Et à qui? Et s'il ne répondait pas, qu'arriverait-il? Et s'il répondait, serions-nous aptes à saisir sa réponse, à l'accueillir et à nous y conformer? Le tout ne manquait pas de suspense. Passons maintenant à sa remarquable réponse. Et je tiens à faire deux précisions importantes avant de parler de sa réponse comme telle. La première précision, avant de commencer même à nous répondre, sans doute pour bien tester notre bonne foi et disponibilité, le Seigneur nous a demandé trois faveurs auxquelles nous avons acquiescé sans hésiter. La première, d'abord une journée de jeûne et de prière chaque semaine, en plein cœur de la semaine, le mercredi. Et c'est ce qui a donné naissance à ce que l'on appelle maintenant les îles de prière. Et sur deux cassettes, numéros 08, G1, 08 et 09, vous avez là la synthèse de cette expérience qui nous a été proposée au tout début. Ensuite, il nous a demandé un vœu de pratique exemplaire et héroïque de la charité fraternelle et communautaire. Et enfin, troisièmement, un vœu d'amour, de fidélité et de service à l'Église, quoi qu'il arrive. Ces deux vœux annuels sont renouvelés chaque année depuis 15 ans. La deuxième précision importante avant de parler de sa réponse. Même si ma question se terminait par la phrase « Qu'est-ce donc au juste qui nous et lui manque à l'Église ?» le Seigneur, en très fin pédagogue, n'a pas répondu d'abord en nous soulignant les lacunes du style actuel, mais plutôt en nous indiquant progressivement les quatre exigences du nouveau style en Église. Bref, en nous faisant découvrir qu'il pouvait exister une Église d'un type autre où lui, vraiment en charge, pourrait donner à nos petits efforts de très grands résultats, au lieu d'une Église actuelle, où au contraire, parce qu'on se met en charge à sa place, nos grands efforts ne donnent souvent que de petits résultats. La réponse du Seigneur s'est répartie sur une première période de 5 ans, de 1975 à 1980, suivi d'une deuxième période de maturation et d'expérimentation de 4 ans et demi supplémentaires, au total 9 ans et demi d'apprentissage, de discernement et de confirmation. Son enseignement nous est parvenu ou venu principalement par Isabelle Gauvin, cofondatrice des fondations, qui a reçu de nombreux charismes et qui a été la messagère privilégiée du Seigneur pour nous transmettre ses enseignements. Des milliers de personnes ont été invitées ensuite, en cours de route, à partager au fur et à mesure ces vins nouveaux du Seigneur et à passer aux actes dans leur vie. Tous, sans aucune exception ou restriction, j'insiste, tous, après avoir connu et expérimenté le nouveau style que le Seigneur a enseigné et l'avoir comparé au style actuel, ont opté et optent toujours sans hésitation pour cette Église qui devient ou redevient véritablement œuvre du Seigneur. Vous avez ici, entre les mains, on vous l'a distribué, à l'endos du graphique, un extrait de la lettre que j'écrivais, lettre fraternelle et ouverte, le 15 août 1984, aux évêques. Et je cite ce que, il y a 6 ans déjà, je leur écrivais à ce sujet. D'abord, brièvement, la mauvaise nouvelle. On a douloureusement constaté et on a pu méthodiquement vérifier tout au long de ces années que le leadership spirituel de notre Église institution continue à décliner fort dangereusement, tant ad intra qu'ad extra, et que cela soit agréable ou non à lire ou entendre dire, il faut reconnaître que nous en sommes vraiment responsables. Malgré de nombreuses et belles réformes post-conciliaires, nous avons malheureusement conservé en Église, de façon assez généralisée, une manière de penser, de parler et de nous comporter qui nous, non seulement n'est pas renouvelée au gré du Seigneur ou des fidèles, mais, je le crois, est dépassée et doit céder la place. Le peuple de Dieu demeure encore beaucoup trop sur sa légitime faim et soif du Seigneur des Seigneurs. Pour que l'Église profondément transformée sur le plan spirituel puisse apparaître pour de bon, celle-là même qui a été prophétisée par Jean 23 et que tous attendent, une option fondamentale, radicale, nouvelle s'impose, à tout prix et sans délai, et seule une grâce généreuse à sa grâce, une réponse généreuse à sa grâce de conversion nous y conduira. Et, dans un deuxième volet, je disais ceci, ensuite et surtout, la très bonne nouvelle. Il existe par ailleurs un second mode possible de vie et de fonctionnement en Église, tout autre que celui qui prévaut de façon générale à l'heure actuelle. Nous avons eu, Dieu soit loué, la grâce de notre vie d'en faire la découverte et surtout l'expérience à fond. Depuis 9 ans et demi. Ce style d'Église est fantastique. Il est infiniment supérieur à celui que l'on connaît actuellement. Il est nettement plus efficace et sanctifiant et beaucoup plus conforme d'ailleurs, non seulement au vrai sens et aux origines de l'Église, mais également au désir actuel et pressant du Seigneur. Il faudrait en effet être aveugle, sourd ou impotent spirituellement pour ne pas réaliser que le Seigneur, déçu de nous, tend sa main comme jamais auparavant et veut restaurer son Église. Fin de la citation. Passons, si vous le voulez bien, à la section B, c'est-à-dire les 4 éléments essentiels qui caractérisent ce nouveau style en Église. Ce style que j'appelle également de temps en temps le style 2, appelé à remplacer le style 1 actuel. Quels sont donc ces éléments essentiels du nouveau style de vie et de comportement, selon la réponse même que le Seigneur nous a inspirée peu à peu et nous a fait mettre en pratique de plus en plus et de mieux en mieux? Je vais me contenter aujourd'hui de vous les rappeler en résumé. Il existe en effet déjà diverses cassettes où je les présente sous le logo mnémotechnique des deux triangles et des trois chaînons. Et je mettrai en circulation bientôt une nouvelle cassette intitulée « Un nouveau style en Église, légitime et indispensable, PH 2, 28 et 29 ». Voici donc les quatre éléments essentiels. Dans le style 2, le style nouveau, selon l'enseignement du Seigneur, il nous faut premièrement opter résolument pour le concept « œuvre du Seigneur » et ne plus nous contenter de faire des bonnes œuvres à nous pour le Seigneur. En d'autres termes, cesser de nous faire accroire que nous sommes instruments du Seigneur quand en réalité nous sommes plutôt des maîtres d'œuvre et que c'est plutôt lui, le Seigneur, qui est souvent, hélas, relégué au rang d'instrument auquel nous recourons, mais en dernier ressort, quand nos autres moyens sont épuisés. Deuxièmement, dans le style nouveau, nous sommes appelés à favoriser une plus grande relation d'intimité entre le Christ, chef de l'Église, et nous, ses disciples, en multipliant et intensifiant nos temps de fréquentation, d'écoute, de discernement, d'adoration et d'oraison auprès de lui, et plus particulièrement en sa présence réelle au Saint-Sacrement. Cette intimité vivante et assidue entre le Maître et ses disciples donne au « suis-moi » une précision et une portée sans précédent, toujours nouvelle, actuelle et accrue. Troisième élément essentiel qui nous est proposé, redécouvrir le sens, le goût, le vécu et tous les bienfaits du vrai de vrai communautaire chrétien, c'est-à-dire cette volonté, aptitude et habitude de pouvoir partager avec tous ses frères et sœurs, pas seulement de sa communauté, pas seulement de son Église, mais avec tous, croyants ou non. Partager sans prétention, avec doigté et en vérité, ce qu'on est ou devient dans la vie, grâce à l'amour du Seigneur, à l'œuvre en nous, au milieu de nous et à travers nous. Ces trois premiers éléments sont, pour ainsi dire, les grandes composantes indispensables de ce nouvel état d'âme en Église. Ces trois premiers éléments sont inséparables l'un de l'autre, s'exigent et se complètent l'un l'autre. Le quatrième élément essentiel que le Seigneur nous a indiqué, c'est la nécessité et la puissance, souvent inexpérimentée par plusieurs, de l'amour trinitaire, qui est l'alpha et l'oméga de tout et de tous. Il est prérequis, cet amour trinitaire, à la mise en place des trois éléments précédents. Il est prérequis à leur bon fonctionnement, épanouissement et agencement. Et c'est cet amour trinitaire qui nous apporte le flot incessant de lumière, de force, d'équilibre, de sagesse, de paix et de joie nécessaires pour persévérer dans ce nouveau style de vie et de comportement nouveau en Église. En somme, il faut se sentir bien aimé et bien aimant de cet amour trinitaire divin pour demeurer dans ce style nouveau en Église. Notons bien ceci, c'est très important. Les quatre éléments sont essentiels. Donc, pas deux, pas trois et demi, ni trois et trois quarts. Les quatre sont essentiels. Ensemble, bien intégrés, ils produisent ce que j'appellerais une chimie spirituelle exceptionnelle. S'en suivent toute une série de bienfaits hors de l'ordinaire. On voit alors une toute nouvelle sève envahir notre arbre de vie spirituelle, tant individuel que communautaire, et les fruits aux quatre valeurs apparaissent ou réapparaissent, les fruits savoureux en abondance qui demeurent et qui se reproduisent. On voit tous les signes vitaux spirituels reprendre force comme jamais auparavant. Et les quatre éléments eux-mêmes, se complétant et s'enrichissant mutuellement, prennent un essor irréversible et irrésistible. C'est vraiment l'ultime conversion. Ce que j'appellerais le voyage en navette spirituelle, en orbite avec le Seigneur, le nouveau renouveau continu qui s'installe chez l'homme ou la femme qui opte pour ce nouveau style. On a donc affaire à deux plans différents. Alors que le style 1 actuel, lui, est centré davantage sur l'agir, le faire, donc sur la qualité des pastorales, d'où de nombreuses causes de friction possibles, car chacun veut promouvoir et défendre sa méthode et ses objectifs, d'où compétition, concurrence, plus ou moins consciente, plus ou moins voilée ou déclarée. Le style 2, lui, n'est pas d'abord centré sur l'agir et le faire, mais plutôt sur l'être, la qualité d'être, non pas tant sur la pastorale que sur le pasteur. Dans le nouveau style, a priori et jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à preuve que le Seigneur indique qu'il faille changer ou mettre de côté, on accueille donc toutes les formes de pastorale et d'engagement valables à l'heure actuelle en Église. Quand le pasteur, lui, aura opté pour le nouveau style et se sera laissé transformer, non pas par nous, mais par le Seigneur, et que sa qualité d'être spirituel sera vraiment entre les mains du Seigneur, ce même pasteur sera plus à même de réévaluer le tout de son ministère en cours et d'opter librement et de se relancer là où, comme il le discernera et comme il croira que le Seigneur le veut. Passons à la troisième section, C. Les abondantes confirmations obtenues concernant ce nouveau style. La certitude que j'ai à proclamer et à réclamer ce nouveau style de vie de fonctionnement indispensable à la relance de l'Église, c'est-à-dire pour vraiment changer la courbe des rendements décroissants actuels en une éventuelle courbe de rendement croissant exceptionnel, repose en fait sur 5 preuves évidentes. Au risque d'en surprendre quelques-uns et même d'en estomaquer d'autres, je dis bien, à dessein, ma ou notre certitude, et non pas seulement hypothèse, simple suggestion, option possible, bonne conviction. Il s'agit bel et bien, permettez-moi que j'insiste et en fasse la démonstration, d'une certitude. Et secondo, d'après nous et d'après moi, la seule solution véritable, valable, qu'il nous reste encore en Église. Quelles sont les bases de cette certitude? La première preuve, c'est le fait que la question a été posée au Seigneur lui-même. Donc, pas à Pierre, Jean-Jacques, si expert soit-il, mais au chef lui-même de son Église et à sa suggestion. Que tous les moyens humains et spirituels possibles et reconnus et recommandés en et par l'Église ont été pris pour bien s'assurer de l'origine, de l'authenticité, de la qualité de la réponse, en toute conformité avec le magistère de l'Église, l'Écriture sainte, la tradition et la théologie. Donc, s'assurer que c'était vraiment du Seigneur. Et enfin, qu'il n'y a eu aucune précipitation, improvisation, tout le temps nécessaire et tous les discernements requis ont été faits. Je vous réfère d'ailleurs à ce sujet à une cassette intitulée « Est-il vrai que le Seigneur parle à ses fidèles ?» 05-B1-06. La deuxième preuve. Ayant eu personnellement une expérience assez longue et des plus diversifiés en Église dans son style actuel, 29 ans auprès des évêques, dans les ministères très variés, à tous les niveaux, j'ai été bien à même, croyez-moi, de repérer au fur et à mesure des enseignements du Seigneur ce qui caractérisait le nouveau style par rapport à l'ancien pour moi, qui est l'actuel encore pour la majorité des bergers, pasteurs et fidèles. Et de pouvoir donc les comparer l'un à l'autre, de les évaluer et de choisir le meilleur. Et, en apprenant à l'école du Seigneur les qualités du nouveau style, de pouvoir repérer par voie de conséquence les défauts de l'actuel. La troisième preuve. Depuis 15 ans, j'ai eu moult occasions de partager ces vins nouveaux du Seigneur dans des conférences, des sessions, des documents, des cassettes, tant au pays qu'à l'étranger. Et des dizaines de milliers de personnes ont été en mesure, donc, d'entendre, d'apprendre, de comprendre ces enseignements. Et, dès qu'elles ont commencé à vivre selon ce style nouveau de vie et de fonctionnement en Église, et nous n'avons cessé d'en avoir des preuves innombrables, leur vie spirituelle a commencé à s'épanouir rapidement. Et elles ne veulent plus revenir en arrière au style qui prévaut encore de façon générale. La quatrième preuve. De nombreuses personnes en autorité en Église, à la tête de diocèses, de paroisses, de communautés religieuses, d'œuvres, ayant opté pour ce nouveau style, en découvrent non seulement la faisabilité, mais la rentabilité, nettement supérieure aux résultats actuels et à tous les points de vue, spirituels bien entendu, mais également au plan, aux autres plans, celui de l'efficacité, de la coordination et de la répartition des tâches. Et peu à peu, ces personnes en autorité travaillent à faire évoluer leur style actuel en un style nouveau, le style 2. Et le bouquet, la confirmation des confirmations, c'est Jean-Paul II, qui incarne parfaitement bien ces quatre éléments essentiels. Et c'est ce qui constitue d'ailleurs la clé du succès évident de sa mission de vicaire du Christ. Il est, Jean-Paul II, je n'hésite pas à le proclamer, pour nous, ce que l'étoile a été pour les mages. Croyez-moi, il va conduire le monde et l'Église, si on suit son étoile, là où est vraiment le Sauveur et son salut offert aux hommes et femmes de bonne volonté. Je donnerai prochainement, d'ailleurs, un enseignement sur cassette expliquant ce que plusieurs ignorent, que notre pape bien-aimé Jean-Paul II vit depuis toujours de façon infuse, sans le dire, ou peut-être même sans trop s'en rendre compte, ce style nouveau de pensée, de vie et de comportement, ce style 2 de rechange que le Seigneur attend de nous pour relancer spirituellement son Église. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que ceux et celles qui ne connaissent pas encore ou n'accueillent pas ce nouveau style ont donc, par voie de conséquence, toutes les misères du monde à comprendre Jean-Paul II et à décoder ses options et ses actions. Et si vous me permettez ici une parenthèse en parlant de Jean-Paul II, et d'ici à ce que vous puissiez écouter cette deuxième cassette sur lui, je vous laisse sur une réflexion choc, à l'allure énigmatique peut-être, mais que ceux et celles qui ont déjà un bon vécu spirituel dans le style 2, vont pouvoir décoder aisément. La voici. Le plus important et le plus puissant du ministère apostolique de Jean-Paul II présentement n'est pas celui que l'on peut voir, entendre ou lire. Peu à peu, le peuple de Dieu va le découvrir et l'Église va le reconnaître, fin de ma citation. Et cette cassette sur Jean-Paul II sera intitulée « Jean-Paul II et notre nouveau style indispensable en Église » 08H110. Je puis vous assurer également que déjà beaucoup de gens en Église connaissent et apprécient et vivent selon ce style de pensée, de fonctionnement tout nouveau en Église. Et je songe à cet éminent archevêque européen qui, ayant eu en main ces cassettes, je ne sais trop comment, après les avoir écoutés, a convoqué ses quatre évêques auxiliaires et leur a demandé d'écouter ces cassettes et il a dit, ensemble, tous les cinq, nous allons nous en inspirer pour notre ministère pastoral. À l'étranger, j'ai rencontré nombre d'évêques, une multitude de prêtres, de religieux, de religieuses, de laïcs de cette trempe spirituelle nouvelle. Au pays également, nombre de laïcs, de prêtres, de religieux, religieuses en vivent déjà. Ce n'est donc pas de la simple théorie, ni un rêve en couleur, ni une hypothèse seulement, ou une utopie. C'est déjà là, sous nos yeux, en train de se mettre progressivement en place, pour peu qu'on se donne la peine de regarder et d'écouter. Mais outre ces gens, pour qui ce style nouveau en Église est déjà réalité, il y a cette autre multitude de fidèles qui se contentent encore de porter tout cela dans leur cœur. Ils le pensent, ils le désirent avec ardeur, mais n'osent pas jusqu'ici le proclamer ou le réclamer de peur d'être mal jugés, repoussés, ridiculisés ou combattus. Pour eux et elles, mes frères et mes sœurs, c'est aujourd'hui jour de fête et d'action de grâce. Car quelqu'un a osé dire tout haut, avec audace et autorité spirituelle, ce qu'ils pensaient et souhaitaient tout bas dans leur cœur depuis fort longtemps. Pour eux et elles, le temps du silence, de l'isolement, de l'inaction est donc révolu. Ils seront prêts dorénavant à concourir à ce renouveau spirituel encore plus profond de l'institutionnel en Église. Et la cinquième et dernière preuve, celle qui confirme notre ou ma certitude hors de toute hésitation et de tout doute, les fruits sont là. Jésus a dit deux choses complémentaires. D'une part, on juge un arbre et ses fruits. Un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits et un mauvais arbre ne donne pas de bons fruits. Et d'autre part, je vous envoie pour que vous portiez du fruit en abondance, du fruit qui demeure, du fruit qui se reproduit. Or, tout cela se vérifie là où le style 2, le style nouveau, est accueilli et mis en pratique. Chez tous les pasteurs, les fidèles, les personnes en autorité qui intègrent pour vrai dans leur vie les quatre éléments essentiels. L'Église, alors, chez eux, autour d'eux, cesse de décliner et prend un essor sans précédent. Ceci étant précisé et le tout reposant, non pas sur des théories comme vous le voyez, mais sur du vécu bel et bien vécu, prié et discerné, il n'y a pas ou plus de place pour des doutes ou des hésitations. L'Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit, il vous conduira vers la vérité tout entière, il vous communiquera ce qui doit venir, et l'Esprit nous parle. La preuve du contraire incombe maintenant aux autres. Quant à nous, c'est maintenant clair et net, sûr et certain. Tous les pour et tous les contre ont été considérés, vérifiés, sous-pesés, discernés. Je leur ai dit, c'est une vraie certitude, solidement établie et mûrie, bien éclairée et fortifiée. C'est saint Paul qui disait aux Galates, « Est-ce que maintenant je veux me faire approuver par les hommes ou bien par Dieu ? Est-ce que c'est aux hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » C'est la même chose pour nous. Je me et je nous en remets totalement au jugement de Dieu. Je joue le tout pour le tout, tant je suis sûr de ce que je fais et vous dis. Non pas une assurance qui vient de moi, non pas une bravade, un coup d'audace humaine, un éclair de génie de ma part. Non, absolument rien de cela. Au contraire, je confesse même que ce que je fais et ferai, dis et dirai, dépasse depuis longtemps et de beaucoup ma caboche, mes talents naturels, mon expérience antérieure, mon style et mon caractère habituel. Je sens que tout cela est bel et bien sorti peu à peu à travers un cœur et un esprit nouveau, renouvelé par lui, discrètement et sûrement, durant cette multitude d'heures consacrées chaque jour, depuis 15 ans, à l'écouter, à le laisser agir et inspirer, à lui obéir de mieux en mieux comme un tout petit devant son Père. Si certains croient que tout cela peut mener à la folie, je les laisse aux prises avec leurs conclusions. Pour moi, au contraire, je vous l'assure, cela nous rapproche intimement de lui et de ses grâces. Et voilà, mes chers amis, nous n'aborderons pas immédiatement la section D, faute de temps. Nous allons nous reposer un moment dans la paix, la joie et l'amour qui vient du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Alléluia.